Je voudrais, en mon nom et au nom de Philippe Reynaud, président de la CME de l'hôpital de Thuir, te remercier, Christian, et remercier les organisateurs de nous donner l'occasion de parler de notre expérience. Merci. De parler de notre expérience dans le territoire des Pyrénées-Orientales. Alors d'abord, je voudrais dire un petit mot sur le titre. Vous verrez que mon titre était relativement prudent, puisqu'il commence par le mot « vert » et il se termine par un point d'interrogation. Et préciser aussi qu'il y a une erreur dans le titre, puisqu'il s'agit d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale, et non pas d'un groupement de coopération sanitaire et médico-sociale, mais vous aurez rectifié de vous-même. Donc Philippe Reynaud et moi-même avons pensé qu'avant de parler de notre expérience, il fallait qu'on vous présente un petit peu notre territoire, parce que il a, comme vient de le démontrer Madame Haas, une importance considérable dans la manière dont nous sommes organisés. Donc nous sommes désormais au sein d'une grande région extrêmement mal nommée, puisqu'on a appelé ça l'Occitanie. Ce que nous ne vivons pas bien dans le département des Pyrénées-Orientales, pas plus que si on disait à des Alsaciens qu'ils sont lorrains, ils le vivraient mieux que nous. Enfin, je crois que nous avons des collègues qui viennent d'Alsace qui pourront peut-être nous donner leur opinion là-dessus. Plus sérieusement, l'Occitanie est une région d'une taille considérable, donc approximativement celle de l'Autriche, je crois.
Deux fois la Belgique.
Voilà, 13 départements avec une grande hétérogénéité de son territoire parce qu'il y a des zones qui sont extrêmement peuplées, Toulouse, Montpellier en particulier, et des zones qui sont extrêmement dépeuplées, en Lozère par exemple, et dans certains cantons de notre propre territoire. Alors cette carte-là, je l'impose à toutes mes interventions pour la raison précédemment évoquée. C'est aussi une manière de vous dire que notre territoire a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il est très clairement défini. C'est-à-dire que personne ne remet en cause, ou à peu près personne ne remet en cause les contours de notre département, puisqu'il a, une histoire particulière, il a des frontières naturelles, et que le territoire en lui-même a l'avantage d'être extrêmement clairement identifié. Le schéma de l'organisation de la psychiatrie publique dans ce département est aussi très clair. Il y a un département, un territoire et un hôpital public. Ça aussi, d'une certaine manière, c'est un avantage. Après, il y a aussi un inconvénient, c'est que lorsqu'on pose la question de savoir avec qui constituer une communauté psychiatrique de territoire au terme du décret tel qu'il est précisément défini d'une manière que je trouve très restrictive, on se trouve confronté à quelque chose qui ressemble bien à une impasse. Ça, c'est l'inconvénient de notre territoire. C'est que les établissements de services publics hospitaliers, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas à côté. Donc l'établissement le plus proche, le CHS le plus proche géographiquement, c'est le CHS Chard-Marchand, qui est à Toulouse, donc à plus de 200 km de là. Et la totalité des établissements à proximité du CH de Thuir ne sont pas des établissements publics spécialisés en santé mentale et donc, à ce titre, ne peuvent pas émarger à la catégorie communauté psychiatrique de territoire. Après, je crois qu'une communauté psychiatrique de territoire avec le CHS Marchand, qui est un établissement avec lequel nous partageons beaucoup de choses, depuis que nous sommes d'ailleurs dans la même région, nous sommes considérablement rapprochés, mais il est évident que l'éloignement est rédhibitoire. Alors, la particularité de notre territoire et le caractère très restrictif du texte sur les CPT auraient pu nous conduire dans une impasse. C'est pourquoi nous avons réfléchi. Alors, quand je dis nous, j'englobe là les médecins, les directeurs de l'hôpital et les gens qui sont venus réfléchir avec nous, en l'occurrence Christian Muller, que je remercie, et Laurent Houdard, qui nous a aidés à avancer sur le sujet, c'est qui est. Essayons d'envisager le territoire à travers l'expérience que nous avons, et c'est ce qui nous légitime, c'est ce qui me légitime, ce qui légitime Philippe Reynaud à parler aujourd'hui devant vous, c'est que le CH de Thuir a développé une forte culture de partenariat dans une logique de territoire et de fluidification des parcours patients, allant au-delà de la simple coopération sanitaire publique, avec notamment le secteur social et médico-social, l'éducation, la justice, la médecine libérale, les institutions privées et les élus locaux. Je viens de vous lire le sixième considérant de l'arrêté de l'Agence régionale de santé accordant une dérogation au GHT, au centre hospitalier de Thuir. Parce que, cher Claude, c'est quand même plus facile de défendre la psychiatrie quand on n'est pas dans un GHT. Je m'empresse Je m'empresse d'ailleurs d'enchaîner au terme du considérant numéro 7 du même arrêté qui fait référence aux coopérations d'ores et déjà engagées avec de nombreux établissements médico-sociaux dans le cadre d'un GCS pharmacie, d'un GCSMS et d'un GIP. Vous avez devant les yeux la liste des coopérations et des groupements formalisés par l'hôpital. Ce que je veux dire, c'est que la dérogation, ce n'est pas un étendard ni un résultat. C'est une opportunité. Que cette opportunité, nous allons la saisir, et que notre expérience des partenariats, donc à ces 5 partenariats formalisés à travers des groupements, je pourrais rajouter ceux auxquels j'ai contribué dans d'autres établissements dans lesquels j'ai travaillé et dont je constate qu'ils sont toujours, qu'ils fonctionnent toujours. Alors, si tu permets, Christian, je voudrais, pour aller vers le sujet du groupement du GCSMS, l'idée d'un GCMS territorial, parler un petit peu du bilan qu'on fait de ces quelques partenariats, de ces groupements, et en même temps revenir sur quelques idées reçues qu'on entend trop souvent à mon goût. Première idée reçue, les GCS ou les GCSMS sont des structures lourdes. C'est faux. Quand on a la compétence, ce n'est pas des structures lourdes. Il faut avoir la compétence dans les établissements, des compétences juridiques, des compétences financières, des compétences économiques. Évidemment, il y a des assemblées générales, il y a des partenaires à convaincre, donc il y a du temps à passer dans les groupements. Mais c'est du temps normal, parce que c'est du temps de partenariat. Et c'est du temps pour convaincre. Je veux bien aussi qu'on compare la lourdeur des groupements avec la lourdeur, par exemple, des conventions de direction commune. Donc moi, je dirige un hôpital, 2 EHPAD, ce qui veut dire que tous les 3 mois, j'ai 3 CHSCT, 3 CTE, 3 conseils d'administration, etc. Donc cette lourdeur-là, croyez-moi, elle est autrement pesante que celle des groupements. On pourrait aussi la comparer à la lourdeur chronophage des GHT, mais bon. Donc ce temps, cette lourdeur des groupements, je ne la confirme pas, ce ne sont pas des structures lourdes, si tant est qu'on ait la compétence pour gérer des groupements et pour les concevoir. Peu opérationnels, les groupements sont peu opérationnels, c'est faux aussi. Les groupements, c'est quelque chose de réactif et d'opérationnel si ça vient reconnaître des partenariats réels. Tous les groupements que vous avez devant les yeux n'ont jamais pris la moindre décision au vote. Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité et certains existent depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Lorsqu'il y a des enjeux économiques, il y en a souvent. Le groupement de coopération sanitaire en pharmacopée, c'est un groupement qui est de 11 établissements, 2 hôpitaux et 9 établissements médico-sociaux de statut divers pour un dispositif nominatif automatisé, je vais y arriver, de dispensation du médicament. Il y a un investissement lourd derrière. Le GCS a dû investir. Les établissements se sont mis ensemble. Cet investissement est équilibré aujourd'hui. Évidemment, pourquoi il faut qu'il soit équilibré, encore faut-il que le modèle économique ait été conçu et envisagé avant la création du GCS. Autre point, l'égroupement, c'est une perte relative d'autonomie. Absolument. C'est comme un mariage. C'est une perte relative d'autonomie consentie et a priori durable. Et ça, c'est un point que, sur lequel je voudrais insister, si vous permettez, c'est que je vous disais tout à l'heure que j'ai mis en place dans des vies antérieures des groupements. J'ai mis, pas moi tout seul, ça se fait évidemment avec les médecins, et ça se fait en équipe. Donc nous avons mis en place des groupements dans d'autres établissements dans lesquels j'ai travaillé, trois. Ces trois groupements continuent à fonctionner malgré les changements d'acteurs. J'ai mis en place aussi un certain nombre de conventions de coopération et elles n'ont pas survécu au changement d'acteur. L'intérêt que je vois, l'intérêt majeur que je vois à un groupement formalisé et l'intérêt qu'il y a à l'envisager, je n'ai pas dit qu'il fallait le faire, le GCSMS, le territoire, j'ai dit qu'il fallait l'envisager. Parce que dans la réunion de lancement du projet territorial de santé mentale de la semaine prochaine, à laquelle vous êtes un certain nombre à participer, si j'arrive à cette réunion en disant on va faire un GCSMS, je pense que je vais vider la salle en 10 minutes. Donc c'est quelque chose qu'on peut envisager, quelque chose qu'on peut mettre au travail. Mais ce sur quoi je voudrais insister surtout, c'est la durabilité de l'union dont je parlais tout à l'heure. Cette perte d'autonomie consentie. Il faut qu'elle soit inscrite dans le temps et qu'elle survive aux acteurs. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, force est de constater que les groupements, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est quelque chose qui permet de mutualiser des ressources. C'est quelque chose qui permet d'organiser en commun. Et c'est quelque chose qui permet d'investir le territoire dans une vision partagée. Je ne dis pas une vision décloisonnée, parce que le décloisonnement, ça fait 30 ans que je travaille dans les hôpitaux et 30 ans que j'entends ce terme-là, un espace partagé dans lequel, effectivement, les frontières entre le sanitaire, le social et le médico-social sont amenées à disparaître progressivement. Voilà, je veux pas être trop long, parce que je sais qu'on est déjà en retard et je voudrais passer le relais à Philippe Reynaud en disant que cette hypothèse de groupement ne peut pas s'envisager sans avoir une communauté médicale, des porteurs de projets et une communauté médicale. Alors hier, dans l'avion, j'avais commencé par écrire une communauté médicale en marche. Et je me suis dit qu'il fallait que j'évite. Mais, après ce qu'on a entendu hier soir, finalement, je me demande si je ne vais pas lui dire quand même.
C'est le but.
Oui.
Bonjour. Je remercie les organisateurs de cette journée. Je remercie Christian Muller et Philippe Bagnol. Je partage les inquiétudes en tant que président de CME de Christian sur, il faut bien le dire aussi, sur la souffrance des professionnels de santé dans les établissements de soins, notamment périphériques aujourd'hui, qui a plusieurs causes sur lesquelles je vais revenir. Une de ces causes est la sensation de perte d'affiliation et c'est directement lié à l'impression, une impression d'impuissance liée à la dissolution des espaces de gouvernance. Je reviendrai sur ces sujets. Et je vais essayer maintenant de faire un diagnostic territorial en deux diapositives sur les Pyrénées-Orientales. Je partage complètement l'avis de Philippe Bagnols, malgré le fait que, à la différence de Philippe, je ne suis pas catalan. Un fait précis, c'est que pour nous, le territoire, c'est simple, c'est le département. Point. Alors, je vous montre le premier aspect du territoire. C'est très beau, c'est très grand, c'est très vide. Je disais récemment à l'adjoint du DGARS qu'il y avait plus, peut-être plus d'ours que de médecin généraliste, ce qui pose des problèmes d'articulation, de soins. Mais il faut prendre en compte cet espace. Il faut aussi marcher beaucoup, c'est vrai, parfois pour aller à la rencontre de nos patients qui parfois vivent dans des grottes et pas toujours, et vers qui il faut aller. Voilà. La deuxième diapositive. C'est pas tout à fait le centre-ville de Perpignan, mais ce sont des espaces urbains qui sont je sais pas comment on arrive à construire encore des choses dans les Pyrénées-Orientales, mais ça se construit partout. Il y a une littoralisation très certaine. Il y a aussi beaucoup, ce qu'on sait peut-être moins ici, d'espaces urbains extrêmement précaires, précarisés, avec des situations sociales extrêmement difficiles, vraiment des populations très très précarisées qui posent des problèmes d'accès aux soins en milieu urbain, cette fois-ci, très spécifique. Il faut s'y intéresser. C'est toujours une histoire de rencontre, et c'est toujours une histoire de rencontre de personnes en souffrance. On est en marche, hein, je le dis. J'ai envie de vous parler d'avenir, et j'ai envie de vous parler d'un avenir optimiste, parce que je crois à la psychiatrie, je crois que c'est un honneur de travailler avec des personnes souffrant de pathologies mentales. C'est vraiment un honneur, et je crois que ces personnes en valent la peine. Il y a plusieurs mots qui sont un petit peu là. Optimiser les parcours de soins. Optimiser les parcours de soins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler avec le médico-social, avec le social. En pratique, c'est difficile. C'est difficile parce que le médico-social, je suis désolé de le dire, hein, mais il y a des logiques différentes dans le sanitaire ou dans le médico-social. Et dans le médico-social, il y a des logiques de casting. C'est-à-dire, si la personne n'est pas assez bien, elle n'est pas prise. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais ça m'emmerde un petit peu. Voilà. Donc, travailler sur des constructions de filières et des filières pilotées par les professionnels et par les usagers, en tout cas par les acteurs de terrain, ça me paraît essentiel. On travaille pas mal avec des conseils locaux de santé mentale. On est assez en avance sur ces questions. C'est assez intéressant. Ça pose d'autres questions, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. La technicité. On dit souvent que les soins psychiatriques sont pas techniques. C'est faux. Les acteurs de terrain en psychiatrie ont une haute technicité relationnelle, mais aussi technique au sens propre du terme. Le centre hospitalier de Thuir va se doter, je l'espère, je me tourne vers Philippe Bagnols, d'un centre de stimulation cérébrale avec des ECT qui permettra de répondre à certaines problématiques d'accès aux soins pour des pathologies résistantes dans peu de temps. Voilà. Je pense que la sectorisation doit être revue un petit peu en intra pour pouvoir offrir des soins différenciés. Il y a la question du psychotrauma, il y a la question de la radicalisation, la question des psychoses débutantes, et je suis d'accord avec les représentants des usagers pour dire qu'il faut absolument mettre l'accent sur les pathologies débutantes. C'est un paradigme très important parce que il faut prendre le mal à la racine, tout simplement. Moi, je milite pour dire que la psychiatrie et la santé mentale, ce sont des choses simples, quoi. Ce sont des besoins universels. Et il faut y répondre simplement parce que ça génère des souffrances atroces chez beaucoup de gens. Hein. Il y a 1 million de personnes qui souffrent de pathologies mentales. Et ça détruit des familles. Et il faut y répondre. On se doit d'y répondre de manière efficace. Voilà, donc pour ça, je me suis souvent disputé avec Philippe Bagnols, mais gentiment, il est d'accord en fait, sur le fait qu'on doit sortir absolument des modèles hospitalo-centrés. Il faut qu'on arrête de mettre 80% des moyens. Je dis, ok, on est très riche, on a beaucoup de moyens en France, mais Il faut bouger le curseur. Il faut mettre 80% des moyens à l'extérieur et pas à l'intérieur. Sinon, on reproduit le tonneau des Danaïdes et c'est sans fin. C'est sans fin parce qu'on peut pas. Il y aura toujours des lits à remplir, des hôpitaux à faire tourner, etc. Donc, on doit passer de ce modèle-là que vous voyez, qui est le modèle du archaïque hein, du XXe siècle, à un modèle beaucoup plus centré sur la communauté, sur le territoire, sur l'extérieur, sur le travail, sur le social, qui impose aux professionnels une réactivité, de voir les personnes à l'intérieur, chez eux, dans la population, et de les aider. Bon, voilà. Donc, sortir des modèles hospitalo-centrés. Un petit exemple, j'en ai pas pour longtemps. Vous avez en France 1000 hospitalisations pour 100 000 habitants, 12% du budget de la santé consacré à la psychiatrie, 58 000 lits. Vous avez en Angleterre 300 hospitalisations. Alors, je le prends en exemple pour la psychiatrie. Hein. 300 hospitalisations pour 100 000 habitants, 5 000 lits, 14% du budget consacré à la psychiatrie. Voilà. Donc, la psychiatrie est vécue comme communautaire. Voilà, donc c'est important de privilégier les alternatives à l'hospitalisation, de réhabiliter les personnes, de travailler avec des associations comme dans qui visent. On a les moyens maintenant de faire retravailler les personnes, certaines personnes, pas toutes, mais dans un environnement normal pour certaines. Et il faut se donner ces moyens-là surtout. Parfois on n'y arrive pas, souvent c'est difficile, mais il faut se donner ces moyens avec tous les outils de réhabilitation qui sont à notre disposition aujourd'hui. Pour cela, il y a quand même une spécificité en France qui est les organisations, complexes. Alors, GHT, CTS, les sigles, donc on s'articule avec tout ça, mais c'est un clin d'œil hein, pour éviter que ce soit déconnecté, comme le disait Madame Haas tout à l'heure, de la pratique de terrain, parce que la psychiatrie est une pratique de terrain, et je voulais éviter de créer des choses qui tournent toutes seules et qui finalement, pour revenir au point de départ, éviter les stratifications en millefeuille. Mais on est spécialiste de ça. Le millefeuille, c'est une spécialité pâtissière française et on sortira pas de ça, je le sais, mais il faut quand même le dire. Voilà. La question de la déstigmatisation, elle est importante parce que nos patients sont stigmatisés, tout le monde le sait, tout le monde le sait ici. La déstigmatisation, c'est un petit peu le mythe de Sisyphe, c'est toujours à recommencer. Hein. Donc c'est à recommencer auprès des médecins déjà, parce que auprès des médecins, les somaticiens, mais parfois même les psychiatres, auprès des élus, auprès des personnes, auprès des... Donc le conseil local de santé mentale, c'est un bon outil de psychoéducation des élus pour la stigmatisation. Voilà. Voilà, donc je vais finir là-dessus en donnant. Je reste optimiste. Le projet territorial de santé mentale, c'est une chance de donner à la psychiatrie une place conforme à son impact sociétal en termes de morbidité. 1 million de personnes souffrent de pathologies mentales. Et pour conclure, je voudrais citer des travaux qui datent un peu, mais qui me paraissent intéressants, qui sont les travaux d'Elina Ostrom, qui est une économiste, théoricienne de l'économie de proximité, et qui a eu le prix Nobel en 2009 et qui disait que les acteurs de terrain sont plus efficaces que les instances, que les institutions pour traiter les problèmes locaux parce qu'ils sont au courant, parce qu'ils les connaissent et parce qu'ils sont plus réactifs. Et ça, elle l'a montré dans une thèse pour laquelle elle a eu le prix Nobel. Donc je vous laisse méditer là-dessus et je vous remercie.